Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir Nathalie Barge, au sommaire de cette édition du 23 novembre 2017. Robert Mugabe reçoit l'immunité tandis qu'Emmerson Mnangagwa s'apprête à prendre le pouvoir au Zimbabwe. Un village incendié à Mobaï en Centrafrique, tous les habitants ont fui en RDC. Au Cameroun, les députés SDF ont perturbé une séance plénière pour parler de la crise anglophone. Le président soudanais Omar el-Béchir a rencontré Vladimir Poutine à Sotchi pour un soutien militaire. Et l'économie et les sports, ce sera juste après le journal. L'ancien président zimbabwéen Robert Mugabe et sa famille peuvent rester dans le pays et ne seront pas poursuivis. Une assurance donnée par un porte-parole de la ZANU-PF, Raissa Girondin nous en dit plus.
Une lumière au bout du tunnel pour l'ex-président zimbabwéen. Robert Mugabe s'est vu garantir l'immunité lui permettant de rester dans le pays. Le plus vieux président en exercice de la planète a quitté sa fonction mardi sous la pression de l'armée et de son parti. Une démission historique mettant fin à 37 ans de règne. L'intraitable Mugabe a négocié durant une semaine son départ. Dès le début du processus de transition assisté par l'armée, tout en étant en résidence surveillée, c'est une immunité finalement accordée à celui qui souhaitait la garantie de la sécurité de sa famille. Il souhaitait surtout finir ses jours sur sa terre natale. Robert Mugabe laisse derrière lui une économie bouleversée par ses réformes. Son ancien bras droit, Emmerson Mnangagwa, qui sera investi chef de l'État par intérim vendredi, a su emmener le pays dans une nouvelle ère, le début d'une nouvelle démocratie.
Plus de 500 victimes de traite des êtres humains, dont près de la moitié sont des mineurs, ont été secourues et 40 trafiquants présumés ont été arrêtés lors d'une vaste opération de police dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest. C'est ce que nous apprend Interpol ce jeudi. Bagasikoura.
Selon la police des polices, l'opération Épervier menée simultanément au Tchad, au Mali, en Mauritanie, au Niger et au Sénégal entre le 6 et le 10 novembre a permis l'arrestation de 40 trafiquants présumés qui seront poursuivis pour, je cite, « traite d'êtres humains, travail forcé et exploitation d'enfants ». Ils sont accusés d'avoir forcé les victimes à s'adonner à des activités allant de la mendicité à la prostitution, explique Interpol, sans préciser si la majorité était destinée à rester sur le sol africain ou à partir en Europe. Ainsi, une Nigériane de 16 ans qui s'était vue promettre un travail au Mali pour pouvoir envoyer de l'argent à sa famille a été forcée à se prostituer par son parrain pour rembourser ses frais de voyage. L'opération Épervier a été conduite dans le cadre du projet Sahel, une initiative financée par le ministère allemand des Affaires étrangères contre les réseaux de crimes organisés impliqués dans la traite des êtres humains. Elle a été coordonnée au niveau régional par des officiers d'Interpol à travers toute l'Afrique de l'Ouest, du Cameroun et du siège de l'organisation à Lyon, en France.
8 directeurs et rédacteurs en chef d'un groupe de tabloïds ougandais ont été inculpés de trahison pour la publication d'un article sur l'implication présumée du président ougandais Yoweri Museveni dans un complot contre le Rwanda, a assuré leur avocat. Les 8 hommes ont été arrêtés mardi au cours d'une descente dans les locaux du groupe Paper Publications visant le journal Red Paper et des publications en langue locale. Au Cameroun, séance plénière mouvementée ce jeudi à l'Assemblée nationale. Les députés du SDF ont exigé un examen d'urgence sur la crise anglophone. Le député Joseph Banadzem a monopolisé la parole, empêchant l'examen des projets de loi du jour. Après une première interruption, les députés du SDF ont entonné un chant disant « Paul Biya, le pays va mal ». Les projets de loi mis en examen ce jour ont été adoptés dans la cacophonie générale et la séance a été suspendue. Une entreprise chinoise de négoce de métaux a déclaré avoir ouvert une enquête pour savoir si des enfants travaillent dans des mines congolaises qui la fournissent en cobalt, une composante cruciale des smartphones et voitures électriques. Yantai Cash, un exportateur de cobalt, a indiqué vérifier actuellement sa chaîne d'approvisionnement à la demande de la Bourse des métaux de Londres qui fixe les prix du marché. L'homme d'affaires nigérian Aliko Dangote a instauré ce jeudi une cimenterie, a inauguré ce jeudi une cimenterie dans le centre du Congo en présence du président Denis Sassou Nguesso. Les travaux ont coûté 300 millions de dollars selon le milliardaire, affirmant que c'est la plus grande cimenterie d'Afrique centrale. Avec son entrée en production, le Congo devient pays exportateur de ciment, s'est félicité le ministre de l'Industrie Gilbert Ondongo. Jusqu'à présent, le pays importe du ciment de RDC, d'Égypte, de Turquie et de Chine. Les arrivées de migrants en Europe via la Libye ont connu une forte baisse en cours au cours du troisième trimestre 2017. Selon un rapport du HCR publié ce jeudi, le nombre de personnes traversant la Méditerranée à partir de la Libye pour arriver en Italie a chuté entre juillet et septembre, passant de 11 500 à 6 300 pour un total de 21 700 sur l'ensemble du trimestre. L'opération européenne Sophia, chargée depuis 2015 de lutter contre le trafic d'êtres humains en Méditerranée, a permis de sauver des milliers de vies et de former des dizaines de gardes-côtes libyens, a annoncé son commandant Enrico Crendendino. Nous avons arrêté 119 passeurs présumés, détruit des embarcations, entraîné 200 gardes-côtes et porté secours à près de 42 000 personnes en mer, a déclaré l'amiral italien. 6 pirates somaliens présumés ont été transférés aux Seychelles après leur arrestation pour les attaques d'un porte-conteneur et d'un navire de pêche au large du sud de la Somalie. Les suspects âgés de 16 à 24 ans sont arrivés ce jeudi à Victoria, a annoncé un responsable de prison seychellois. Et les Algériens se sont rendus aux urnes ce jeudi pour désigner leurs élus communaux et départementaux dans un contexte social économique morose. Le dépouillement a commencé, les résultats officiels sont attendus vendredi.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Omar El-Béchir demande la protection de Vladimir Poutine contre les actes agressifs des États-Unis, selon ses termes. Une requête formulée ce jeudi donc par le président soudanais lors d'un entretien à Sotchi avec son homologue russe, Blanche Sanou.
Sous le coup des mandats d'arrêt international, Omar El-Béchir s'est rendu pour la première fois en Russie, peu après la levée par le gouvernement du président Donald Trump de l'embargo américain. Il a précisé que son pays a besoin d'être protégé contre les actes agressifs des États-Unis. Il a aussi formulé son souhait de renforcer la coopération militaire avec Moscou en vue de rééquiper ses forces armées. Dans ses déclarations, Omar El-Béchir a remercié Vladimir Poutine pour la position qu'il prend dans les affaires internationales. « Si la Russie n'était pas intervenue dans la situation en Syrie, ce pays aurait été perdu », a-t-il par ailleurs estimé. Le président soudanais est visé par deux mandats d'arrêt internationaux émis par la CPI pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Malgré la levée de l'embargo après 20 ans, les États-Unis ont en revanche maintenu ce pays sur leur liste des États soutenant le terrorisme.
Le sort du président syrien Bachar al-Assad pendant une éventuelle phase de transition en Syrie devrait être décidé au cours de négociations attendues entre le régime et l'opposition, a estimé ce jeudi le parti au pouvoir en Turquie. Avec la Russie et l'Iran, nous cherchons une solution. Si congrès il y a, l'interlocuteur pour Assad sera l'opposition, a déclaré Mahir Ounal, porte-parole de l'AKP, au lendemain d'un sommet sur la Syrie en Russie. La Birmanie et le Bangladesh ont signé un accord sur le retour dans les 2 mois de réfugiés passés au Bangladesh où 620 000 Rohingyas ont afflué depuis fin août. Après des mois de pourparlers et une intense pression diplomatique internationale, la dirigeante birmane Aung San Suu Kyi et le ministre bangladais des Affaires étrangères Mahmoud Ali ont finalement conclu un accord dans la capitale birmane sur le retour des personnes déplacées de l'état Rakhine, épicentre des troubles. Un groupe de travail doit être mis en place dans les 3 semaines pour décider des modalités de rapatriement. La Chine et Djibouti ont élevé le niveau de leurs relations diplomatiques, a indiqué Pékin, quelques mois après l'ouverture par l'armée chinoise d'une base militaire dans ce pays. L'annonce est intervenue à l'issue d'une rencontre entre le président djiboutien Ismaël Omar Guelleh et son homologue Xi Jinping. La Chine a inauguré début août à Djibouti sa première base militaire à l'étranger. Selon Pékin, elle est destinée à soutenir les opérations de maintien de la paix de l'ONU, d'évacuation de ses ressortissants et d'escorte navale. L'armée chinoise a mené en septembre des exercices militaires dans ce pays est-africain. et un policier français qui avait giflé un migrant en 2016 dans un centre de rétention à Calais a été condamné à 6 mois de prison ferme. Cet agent de la police aux frontières assurait l'escorte d'un migrant jusqu'à la salle de jugement d'un centre de rétention administrative. Il avait, juste avant le passage devant le juge des libertés et de la détention, giflé le migrant sous les yeux d'une greffière qui a ensuite témoigné. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Eki Abadou.
Le milliardaire sud-africain Christo Yez redouble d'efforts pour réunir deux groupes de distribution, Stenoff et Shoprite, afin de poursuivre leur expansion en Afrique. Shoprite domine le secteur de l'épicerie. Star vend surtout des vêtements, des chaussures, des articles ménagers et des meubles. Avec un contrat de près de 27 millions d'euros, la Senelec, société d'électricité du Sénégal, a retenu le groupe français Vinci Énergie pour la réalisation de 8 centrales photovoltaïques sur 4 grandes régions du Sénégal, les îles du Saloum et la région de Thiès, à l'ouest du pays, ainsi que dans les régions de Tabakunda et de Kolda, à l'est. Le secteur des télécommunications est en pleine expansion en Côte d'Ivoire, selon le PDG d'Orange. Le groupe de télécommunications se prépare pour une installation d'ici 24 mois dans son nouveau siège social d'Abidjan. La pose de la première pierre a été effectuée mercredi par le Premier ministre Koulibaly pour un coût total d'investissement de 28 milliards de francs CFA. L'Ouganda mise sur le pétrole pour son développement. Dès 2020, le gouvernement espère qu'une manne de 2,4 milliards de dollars par an sortira des champs pétroliers. Dans l'attente de l'or noir, les activités économiques se développent de manière significative dans la région d'Oima, située à proximité de Puy. Investisseurs et communautés se préparent à l'arrivée de nouvelles activités et d'une nouvelle population de travailleurs.
À présent, les sports avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
Alors Villarreal s'est qualifié pour les 16e de finale en Ligue d'Europe.
Tout à fait Nathalie, les Espagnols de Villarreal se sont qualifiés au Kazakhstan grâce à leur victoire 2-3 devant le FC Astana. D'autres matchs sont en cours et pour le moment, Konyaspor mène 1-0 face à Marseille en Turquie. 3-0 pour Red Bull Salzbourg face à Vitória Guimarães. Avantage pour Nice avec un retour gagnant de Mario Balotelli, auteur d'un doublé qui permet aux Niçois de mener 2-1 face à Zult à quelques minutes de la fin du match. Plus tard, l'Olympique Lyonnais sera face aux Chypriotes de l'Apollon Limassol. L'OL sera qualifié pour les 16e en cas de victoire ou de match nul.
Et Luis Campos supervise la transition du club lillois.
Au lendemain de la mise à pied de l'entraîneur Marcelo Bielsa, Luis Campos, conseiller sportif du président Gérard Lopez, supervisera la période de transition assurée par un staff technique provisoire. El Loco paie les mauvais résultats de son équipe, 19e et avant-dernière en Ligue 1, après une ultime défaite cinglante lundi à Amiens, un autre mal classé 3-0 en 13 journées de championnat. La formation nordiste a concédé 7 défaites pour seulement 3 victoires et 3 matchs nuls.
Et Hierro redevient directeur sportif en Espagne, n'est-ce pas Yacouba?
Tout à fait. L'ex-défenseur international Fernando Hierro a été nommé directeur sportif de la Fédération espagnole de football. Hierro, 49 ans, avait déjà occupé cette fonction entre 2007 et 2011. Sur cette période, la sélection espagnole a remporté l'Europa League en 2008 et l'Euro également de 2012, ainsi que la Coupe du Monde de 2010. L'international aux 89 sélections a notamment gagné au cours de sa carrière de joueur 3 Ligues des Champions et 5 Championnats d'Espagne avec le Real Madrid entre 1989 et 2003.
Supersport compte sur son public pour renverser le tout-puissant Mazembe à la Coupe CAF.
Oui Nathalie, le club sud-africain a décidé de mener une campagne de séduction. Supersport United prévoit une entrée gratuite au Lucas Moripo Stadium pour tous les supporters qui porteront un t-shirt bleu, couleur du club local. Après la défaite 2-1 lors de la finale aller, une victoire d'un but à zéro face au TP Mazembe suffirait aux Sud-Africains pour monter sur le toit de l'Afrique.
Merci beaucoup Yacouba pour cette page sportive. Nathalie Barge pour vous présenter une édition spéciale en cette journée de Thanksgiving célébrée chaque année ici aux États-Unis depuis 1789. Le quatrième jeudi de novembre, c'est l'une des fêtes les plus importantes du calendrier américain où l'on se réunit en famille ou entre amis pour partager le traditionnel repas de l'Action de Grâce. Pour savoir d'où vient exactement cette tradition, un petit retour dans l'histoire avec Eric Maniragiza.
La fête de Thanksgiving symbolise l'action de grâce, une occasion de remercier le bon Dieu pour des récoltes abondantes. Elle est fêtée pour la toute première fois en 1621. Une année auparavant, les premiers Européens débarquent sur le sol du Nouveau Monde. Ce sont des colons venus d'Angleterre. Ils fuient la persécution pour leurs pratiques séparatistes de la religion anglicane. Ils fondent la ville de Plymouth dans l'état du Massachusetts et s'installent. Le premier hiver décime la moitié du groupe de faim, de froid ou de maladie. Les survivants sont conscients que leurs chances de survie sont maigres et décident de collaborer avec les autochtones, donc les Amérindiens. Les deux groupes s'apprivoisent mutuellement et signent un traité de paix. Les Amérindiens leur offrent à manger et leur transmettent leur savoir-faire pour s'acclimater à la région, à pêcher, chasser et démarrer leur plantation de maïs. La chance est avec eux et la première récolte est abondante. Le nouveau peuple d'Amérique invite les autochtones à se joindre à eux pour un repas de fête. C'est la première célébration de Thanksgiving aux États-Unis. Peu après la guerre d'indépendance, le premier président américain George Washington décrète le 3 octobre 1789 le premier jour d'Action de Grâce et le fixe au jeudi 26 novembre. Pendant plus de 30 ans, Thanksgiving est célébré à des jours différents. En pleine guerre de sécession, en 1863, le président Abraham Lincoln juge le moment approprié d'en faire une célébration nationale pour réunir tout le peuple américain autour d'une célébration officielle et commune à tous les foyers américains. Il fixe la date au quatrième jeudi de novembre. La tradition perdure encore. Elle est devenue le moment familial où la famille éparpillée dans tout le pays se retrouve pendant 4 jours consécutifs. C'est un chassé-croisé impressionnant d'Américains sur les routes et dans les aéroports. Cette année, plus de 50 millions d'Américains se sont déplacés. Le traditionnel repas de Thanksgiving est composé d'une dinde farcie servie avec une sauce aux herbes et de la purée de patates douces et d'une tarte à la citrouille en dessert. C'est également le mets le plus authentique du premier repas de Thanksgiving des colons de Plymouth.
Emboîtant le pas à ses prédécesseurs, le président américain Donald Trump a gracié mardi sa première dinde à la Maison-Blanche à l'occasion de la fête de Thanksgiving. Sur cette tradition considérée comme étant un peu amusante, voici un reportage de Nicoletta Illich de La Voix de l'Amérique, relaté par Jacques Aristide.
L'origine du rituel est incertaine. Certains affirment que c'est la clémence du président Abraham Lincoln durant son mandat entre 1861 et 1865 en faveur d'une dinde qui a donné lieu à cette cérémonie du pardon. D'autres indiquent que c'est John F. Kennedy qui fut le premier locataire de la Maison-Blanche à se montrer magnanime lorsqu'un volatile lui a été présenté en novembre 1963. D'autres encore maintiennent que ce n'est que depuis George Bush père en 1989 que les présidents ont pris l'habitude d'exercer leur droit de grâce sur une dinde. Edward Lengel est historien attaché à la White House Historical Association.
He had a son named Tad,
Abraham Lincoln avait un fils nommé Ted qui plaisantait avec lui à propos de sa dinde qui se promenait dans les isoloirs le jour du scrutin en 1864. Et Abraham Abraham Lincoln lui a demandé pourquoi elle était là. Est-ce que la dinde est là pour voter?
Mais Ted répondit que sa dinde ne pouvait pas voter parce qu'elle était trop jeune.
Par conséquent, Abraham Lincoln devait gracier cette dinde et lui éviter d'être tué pour être dégusté à l'occasion de Thanksgiving.
La Fédération nationale des éleveurs de dinde en offre une au président depuis l'époque de Harry Truman après la Seconde Guerre mondiale. Ainsi, le 18 novembre 1963, John F. Kennedy, compatissant, déclara devant la dinde offerte par cette fédération « Nous laisserons celle-là grandir. S'il n'y a aucun document officiel qui peut attester de la grâce présidentielle de Lincoln, celle de Kennedy est solidement documentée. »
Il faut donc accepter que c'est bien JFK qui a commencé cette tradition, laquelle se poursuit à ce jour.
Mais le président Truman y est également pour quelque chose.
Il y a donc la cérémonie officielle de réception de la dinde à la Maison-Blanche, et je pense que c'est Harry Truman qui fut le premier à présider à cette cérémonie publique.
La légende veut qu'après une journée d'éprouvante exposition médiatique à Washington, l'heureux élu parte couler des jours heureux dans une ferme, loin des appétits humains et de l'agitation du monde. Quant au président, il achète généralement sa propre dinde pour l'incontournable repas de Thanksgiving à la Maison-Blanche, comme c'est le cas dans pratiquement tous les foyers américains.
Comment les Américains fêtent-ils la journée de l'Action de Grâce ? Raissa Girondin et Trésor Matondo ont tendu le micro à des habitants de Washington.
Thanksgiving, yeah, Thanksgiving is a big deal. Ça c'est un bon truc que les gens font. Nous on va faire une fête le jour là. On va aller chez un grand frère là. On va aller faire la fête là-bas, simplement. Ça va être la fête vraiment. Ouais, la plupart des gens fêtent le jour, hein, les fêtes, yeah. Il y a le turkey, il y a tout, surtout les nourritures locales. Genre, nous, quand même, on fait quand même des trucs qui viennent de chez nous. Le jour de Thanksgiving, par exemple, il y a toutes sortes de nourritures comme le riz, le thon, certains trucs que vraiment les Américains ne connaissent pas. Nous, on fait ça. So, c'est intéressant quand même.
Thanksgiving represents to me its family.
Ce que représente Thanksgiving pour moi, c'est la famille. Chaque année, ma famille se réunit et chacun prépare un plat. On les emmène tous. J'ai un héritage hispanique, donc je fais un mélange de nourriture américaine et mexicaine. C'est juste un moment où on s'assoit et on prend des nouvelles de tout le monde. Ça se produit qu'une fois dans l'année. Un moment où on n'est pas obligé d'acheter un cadeau comme Noël. Ça fait juste du bien d'être avec les membres de sa famille et d'avoir tout cet amour autour de soi. Parce que les avoir autour de moi me prouve à quel point je compte pour eux.
Maintenant, on a l'habitude de célébrer Thanksgiving. Même si ces dernières années, je n'ai pas pu le célébrer parce que je travaille de l'ouverture jusqu'à la fermeture. Notre magasin ouvre à 5 heures du matin et dure toute la journée. Chaque année, nous travaillons comme ça.
J'ai découvert Thanksgiving quand je suis venue dans ce pays, il y a 22 ans à peu près. Ça représente toutes les bénédictions que nous avons reçues ici. Et aussi, c'est un rappel pour penser aux personnes défavorisées, de ne pas les oublier et de les aider. J'ai accepté de le célébrer à l'américaine. On prépare la dinde, de la purée. Et aussi, j'adore la patate douce. Et mon fils aussi, d'ailleurs. On fait un festin, on est tous ensemble et on est heureux et en bonne santé. On remercie Dieu et l'Amérique.
Georges Léonard Sagnou et Eddie Isango ont contacté des membres de la diaspora africaine qui fête Thanksgiving dans la région de Washington.
Je m'appelle Kanye Koulibaly Détmini. Thanksgiving, ça signifie une réunion de famille autour d'un plat pour s'apprécier et resserrer les liens familiaux. Pour moi, c'est ça.
Salut, je m'appelle Étienne Yonli. Pour moi, Thanksgiving, c'est au fait une fête de reconnaissance envers le Créateur. La première fois que j'ai pris connaissance avec cette fête, c'était à Ouagadougou avec des amis américains et chacun devait à tour de rôle dire il était reconnaissant de quoi dans sa vie. Donc la famille, les gens participent et le jour, généralement c'est le papa qui coupe le dindon et on partage les plats succulents, les gens sont vraiment contents. C'est vraiment magnifique.
Je suis Safia Touba. Thanksgiving pour moi c'est d'abord une fête américaine, c'est-à-dire une occasion de passer du temps avec sa famille et ses amis et en même temps remercier cette dame de faire partie de ta vie, de leur soutien. En fait, c'est pas une fête commerciale, c'est une fête de retrouvailles et le plus important c'est ça.
Mon nom c'est Pepe Boum. Pour moi, Thanksgiving c'est une fête très très importante d'abord pour les Américains. C'est plus important même que le Nouvel An. C'est une fête de reconnaissance et le but c'est d'être reconnaissant à Dieu.
Christian Mukuna Boacha, spécialement pour le Thanksgiving de cette année, évidemment, nous sommes invités dans une famille américaine. Nous allons y partir avec le repas africain, spécialement le repas congolais. Nous avons songé à préparer les makayabu, les poissons salés, et les préparer à la mode congolaise. Nous préparons les mbinzo, qu'on appelle les chenilles. On va y ajouter du riz. Mon épouse prépare également les beignets et il fait les cakes à la mode congolaise. On assemble avec toutes ces choses, avec un peu de la boisson aussi.
Je suis Lamine Kondé. Alors, et je ne suis pas historien, mais cette fête est fêtée chaque quatrième jeudi du mois de novembre de chaque année. Ce jour-là, dans chaque famille, il y aura à manger. Chaque famille va inviter d'autres familles pour venir partager ce que la famille a eu pendant l'année.
Je m'appelle Mamadou Ba. On célèbre la fête de Thanksgiving souvent avec les amis, en famille, et puis on se retrouve, on mange, on discute, puis des fois on va chez des amis américains comme chaque année. C'est une très bonne tradition parce que ça nous rappelle les fêtes de chez nous comme la fête de Tabaski.
Pour fêter Thanksgiving à Dakar, les Américains et amoureux de la culture des USA se retrouvent au restaurant Mawa's Taste of America, notamment. Notre correspondant Sedina Abagay les a rencontrés là-bas.
C'est dans une ambiance soft que Thanksgiving est fêté dans ce restaurant ouvert par une Sénégalo-américaine. Après plus de 20 ans aux États-Unis, Mamawa, Mrs. Hughes, a décidé d'importer les spécialités américaines à Dakar.
Thanksgiving au Sénégal, avant l'ouverture du restaurant, les gens faisaient ça en famille, mais avec difficulté de trouver les produits pour faire un dîner ou en tout cas pour faire une cuisine. Il faut les ingrédients qu'il faut. Et dans les premières années, c'était difficile, mais maintenant, c'est quand même, j'avoue qu'on trouve presque tout ici. Ce qu'on ne trouve pas, on amène des États-Unis. La dinde est le gros problème. On en trouve, mais vraiment des dindes très chétives. Et le Thanksgiving en Amérique, la dinde est très potelée et jolie et tout.
Thanksgiving est apprécié au-delà des États-Unis. Sandrine est une Française vivant au Sénégal. Professeure d'anglais, elle a adopté la tradition lors d'un séjour aux États-Unis.
Thanksgiving, c'est une fête que j'aime bien fêter, mais aussi parce que je l'enseigne à mes élèves. Et donc pour moi, ça a du sens de le fêter, parce que je l'enseigne, mais aussi parce que j'ai vécu un an aux États-Unis. Et que lors de mon séjour aux États-Unis, j'ai eu l'occasion de fêter cette grande fête nationale de Thanksgiving avec des Américains autour d'une table, avec une famille, et puis les plats traditionnels qu'on peut connaître.
Aminata est une Sénégalaise ayant vécu pendant 11 ans aux États-Unis. Pour elle, qui connaît Thanksgiving ne peut plus s'en passer.
Au Sénégal, ils n'ont pas cette culture de Thanksgiving. Ça n'existe pas ici. Tout comme peut-être aux États-Unis, les Américains ne connaissent pas la Tabaski ou la Corité. Donc, pour les gens qui ont vécu aux États-Unis, qui connaissent Thanksgiving, qui savent que c'est super fun, quand ils sont au Sénégal. Bien sûr qu'ils veulent fêter comme tout le monde.
Sandra, américaine originaire de Caroline du Sud, estime que fêter Thanksgiving aux États-Unis est beaucoup plus agréable.
Thanksgiving in Senegal is different because everything is still functioning.
Thanksgiving au Sénégal, c'est différent car tout fonctionne. Aux États-Unis, tout est fermé le jour de Thanksgiving et on reste à la maison pour faire la fête avec les amis et la famille. Ici, on a le même sens de la famille et des amis, même si on est loin du pays.
C'est la fin de cette édition. À la mise en onde, c'était Georges Léonard Sagnot, à la console Audrius Regis, à la présentation Nathalie Barge. Ainsi va le monde aujourd'hui, on reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site internet voaafrique.com pour l'actualité en continu. Très bonne soirée à tous.